Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les États-Unis à la une ce matin pour la division affichée au Congrès alors que Donald Trump concluait son traditionnel discours sur l'état de l'Union annonçant que le meilleur était à venir. Derrière le président des États-Unis, Nancy Pelosi, la chef de file de l'opposition démocrate, a déchiré le texte présidentiel, signe donc de la tension avant les élections de novembre prochain et dans la primaire démocrate qui s'est jouée dans l'Iowa, dans le Midwest des États-Unis. Le jeune Pete Buttigieg s'est offert une courte avance devant le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. À la une encore, la Syrie, où 500 000 de personnes ont été déplacées dans le nord-ouest du pays à cause de l'offensive du régime. Et puis en France, le gouvernement tente d'éteindre la polémique sur l'allongement du congé de deuil pour un enfant après les propos hier d'Édouard Philippe, reconnaissant devant les députés une part de responsabilité. Les étudiants sont en grève aujourd'hui avant une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle. Les étudiants opposés à la réforme des retraites arriveront-ils à mobiliser des troupes?
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, sécurité routière, pourquoi revenir sur les 80 km/h? On posera la question à Gérard Hernia. Il est docteur en sciences de l'éducation et chargé de recherche pédagogique à l'École de conduite française.
Alors donc que Donald Trump concluait son discours sur l'état de l'Union annonçant que le meilleur était à venir. Derrière le président des États-Unis, debout devant le Congrès, Donald Trump, costume sombre, cravate rouge, Nancy Pelosi, la chef de file de l'opposition démocrate, s'est clairement distinguée par son tailleur blanc, référence aux suffragettes américaines, mais surtout en n'applaudissant pas Donald Trump quand les républicains lui accordaient une standing ovation, allant même jusqu'à déchirer le texte présidentiel. Un discours de l'Union sous grande tension à la veille d'un acquittement quasi certain de Donald Trump dans son procès en destitution, Isabelle Raymond.
Oui, c'est clair. L'image qui restera d'ailleurs, c'est celle de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui déchire ostensiblement le discours de Donald Trump dans le dos du président. Il vient alors à peine de terminer de le prononcer, se lève pour quitter la salle une heure et demie plus tôt quand Donald Trump a pénétré dans cette même Chambre des représentants. Il n'a pas serré la main que lui tendait Nancy Pelosi, deux scènes qui illustrent à elles seules les rapports exécrables que Donald Trump entretient avec le camp démocrate. Alors que, vous l'avez dit, la procédure de destitution du président devant le Sénat va se conclure dans quelques heures par son acquittement. Et puis, évidemment, il y a cette campagne électorale qui commence avec le coup d'envoi de la primaire démocrate. La présidentielle est lancée, elle s'annonce musclée entre des démocrates qui ne savent pas encore qui dans leur camp affrontera un Donald Trump autour duquel, Camille, les républicains ont clairement décidé de faire bloc.
Et sur le fond, Donald Trump est clairement en campagne pour 4 années supplémentaires à la Maison Blanche, Isabelle.
Oui, il s'est félicité de l'action accomplie depuis son arrivée à la Maison Blanche. Jamais autant n'a été accompli en 3 ans, a-t-il dit, comme à son habitude, en déroulant son bilan, d'abord sur le front économique, baisse du chômage, emploi créé, accord commercial conclu récemment avec la Chine, lutte contre l'immigration clandestine, également avec la construction de ce mur avec la frontière mexicaine. Donald Trump a conclu en affirmant « le meilleur est à venir », suggérant qu'il ne pensait pas que ce serait son dernier discours sur l'état de l'Union. Un discours qui avait un petit air de campagne électorale. Le camp républicain d'ailleurs se levait pour applaudir très régulièrement son champion. Donald Trump se voit déjà réélu pour un second mandat, un 45e président, regonflé par cette procédure d'impeachment qui ne l'aura même pas fait vaciller et une cote de popularité qui n'a jamais été aussi haute depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a 4 ans.
Isabelle Raymond à Washington ce matin pour France Culture. Donald Trump, vous le disiez, applaudi par les élus républicains au Congrès, qui affrontera donc le président sortant aux élections de novembre prochain dans la primaire démocrate lancée il y a 2 jours dans l'Iowa, cet état rural du Midwest. Toujours pas de résultat définitif à cause d'une application informatique que les chefs de bureau n'ont pas réussi à utiliser. Mais selon près de 60% des 1700 bureaux de vote, selon ces résultats provisoires donc, le Benjamin de la course démocrate Pete Buttigieg devance de peu Bernie Sanders, le sénateur du Vermont le plus âgé des prétendants dans le camp démocrate. Des résultats observés de près, Grégory Phillips.
Normalement, tous les 4 ans, le vainqueur de l'Iowa est triomphant, car une victoire dans ce petit état du Midwest donne un énorme coup d'accélérateur à une campagne. Mais cette année, il y a 2 gagnants et encore les résultats ne sont pas consolidés. Ça n'a pas empêché Pete Buttigieg, hier soir dans le New Hampshire, de revendiquer la victoire avec émotion. Lui, l'ex-maire de South Bend, inconnu il y a 1 an et au profil atypique, 38 ans, vétéran d'Afghanistan, marié à un homme.
Cette victoire confirme pour un enfant qui, dans notre communauté, se poserait la question de savoir s'il ou elle appartient bien à cette société, eh bien c'est le cas. S'il croit en lui-même ou en son pays.
Au même moment, les équipes de Bernie Sanders publient aussi leurs résultats, tout en disant leur colère après le couac informatique de lundi soir. Nina Turner, qu'on croise hier après-midi à Chicago entre 2 avions, est la co-directrice de la campagne de Sanders.
Avec ce couac qu'on a donné au président Trump un cadeau en or, c'est une honte pour le Parti démocrate, mais je suis persuadée que notre candidat Bernie Sanders a bien gagné ce caucus.
L'autre enseignement de ces résultats encore provisoires, c'est le plongeon de Joe Biden, qui pour l'instant dans l'Iowa n'arrive qu'à la 4e place. Direction maintenant le New Hampshire, où l'on vote mardi prochain.
Grégory Phillips de retour de l'Iowa pour France Culture. C'est l'une des plus grandes vagues d'exode depuis le début de la guerre en Syrie. 1,5 million de personnes ont été déplacées en 2 mois de violence dans le nord-ouest du pays, en 2 mois d'offensive du régime de Bachar el-Assad soutenu par Moscou pour traquer djihadistes et rebelles dans la région d'Idleb au Marwaman.
C'est l'ultime province qui échappe encore au régime de Bachar el-Assad. Le dernier refuge pour des centaines de milliers d'habitants, originaires des villes d'Alep, de Homs, de Madaya ou encore de la Ghouta, tous déplacés de force ces dernières années à la suite d'accords passés avec Damas. C'est le cas de Hossam, un père de famille coincé depuis plusieurs semaines aux portes de la Turquie, où il assiste à un flux ininterrompu de civils fuyant les zones de combat.
On voit arriver beaucoup, beaucoup de monde. Ça n'arrête pas. Ils fuient les opérations militaires menées par le régime et la Russie. Les bombardements russes font beaucoup de victimes, car ce sont des zones où il y a beaucoup de civils. La frontière avec la Turquie est fermée. Pour pouvoir la franchir, il faut payer $600 par personne. Nous sommes 6 dans ma famille, donc il faudrait que je paye plus de $3,000, mais je n'ai pas cette somme. Personne ici n'a les moyens de payer autant d'argent.
Piégé dans cette souricière, sous des températures glaciales et pris en étau entre les djihadistes et les forces du régime syrien, le dernier espoir de ces civils réside dans un hypothétique cessez-le-feu réclamé jusqu'à présent en vain par les Nations Unies.
La Syrie, d'où les États-Unis ont retiré leurs troupes en octobre dernier dans le nord du pays, permettant à l'armée turque de prendre le contrôle d'une large bande de territoire dans une région à majorité kurde. Au milieu, la ville de Kobané, capitale de la résistance face au groupe État islamique. Kobané, où s'est rendu notre envoyé spécial Valérie Crovas, et le reportage de la rédaction à suivre à 7h24 sur France Culture. Le Monde dispose encore d'une fenêtre de tir pour endiguer l'épidémie de coronavirus venue de Chine. C'est ce qu'indique l'OMS. Alors que le virus a officiellement tué 490 personnes et contaminé 24 000 autres. Les mesures de confinement gagnent en ampleur aujourd'hui à travers la Chine. Après la mise en quarantaine de Wuhan, le foyer de l'épidémie dans le centre du pays, un nombre grandissant de villes dans l'est de la Chine, dont la métropole économique de Wanzhou, impose des restrictions de déplacement à leurs habitants. Idem dans la province du Zhejiang, au sud de Shanghai, où l'on compte ce matin près de 900 cas de coronavirus. C'est la province la plus touché en dehors du foyer de l'épidémie, Simon Le Plâtre.
Quand le secrétaire du parti de Shaoxing au sud de Shanghai a vu qu'on ne le laissait pas rentrer dans un village de son agglomération, il a félicité la détermination des habitants. Alors que les Chinois rentrent progressivement des vacances du Nouvel An, les villes veulent séparer, isoler ceux qui reviennent, qui ont voyagé à travers la Chine et rapportent potentiellement le virus. Le Zhejiang est une province au sud de Shanghai connue pour le dynamisme de ses petites entreprises, mais beaucoup d'entrepreneurs se sont installés partout dans le pays, y compris à Wuhan. Par exemple, 170 000 habitants de Wenzhou, une ville du sud de la province, travaillent à Wuhan et ont pu rapporter le virus en rentrant passer le Nouvel An. Aujourd'hui, 364 personnes sont contaminées dans la ville. La municipalité a donc décidé de mettre en place des mesures strictes. Dans chaque famille, une seule personne est autorisée à sortir une fois tous les 2 jours pour faire les courses. Des tickets de sortie ont été distribués à chaque foyer. Après Wenzhou, d'autres villes de la province ont adopté les mêmes mesures. Ningbo, Taizhou, Hangzhou, la quarantaine se rapproche rapidement de Shanghai.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le gouvernement tente d'éteindre la polémique sur l'allongement du congé de deuil d'un enfant.
envolé l'argument maintes fois répété par les députés de la majorité. L'allongement du congé de deuil est une charge pour les entreprises, non ? La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, estime maintenant que la question n'est plus seulement d'allonger le congé de deuil de 5 à 12 jours. Le gouvernement souhaite s'emparer du problème de façon plus large, accompagner psychologiquement les familles, aménager le retour au travail ou financer les obsèques. On y revient dans le journal de 7h30. Alors que cette polémique fait couler beaucoup d'encre, le fossé se creuse entre l'exécutif et sa majorité, titre Le Figaro ce matin. Attaque de boulettes géantes, ironise Libération. De son côté, Christophe Castaner revoit sa copie à 6 semaines des municipales. Sanctionné par le Conseil d'État, le ministre de l'Intérieur a publié une nouvelle circulaire sur l'attribution des étiquettes politiques aux candidats. Sa circulaire initiale prévoyait de relever de 1000 à 9000 habitants le seuil au-delà duquel les préfets attribuaient une étiquette politique aux listes candidates. Finalement, ce sera 3500. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle, les étudiants appellent à descendre aujourd'hui dans la rue. Les organisations de jeunesse veulent une grande journée d'action, mais sera-t-elle réellement suivie ? Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, les étudiants ne sont pas à la pointe de la contestation. Contrairement à la réforme de 2010, les facs et les lycées sont peu mobilisés contre la réforme des retraites. Alors, qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Damien Mestre a rencontré des étudiants et des doctorants du département de sciences politiques de la Sorbonne Paris 1. Ils sont très mobilisés depuis 3 semaines, mais ils n'arrivent pas à faire descendre leurs camarades dans la rue.
À l'entrée des facs, les plus militants sont un peu dépités et une question revient souvent, pourquoi est-il si difficile de mobiliser ? Alors il y a bien sûr la lassitude après des mois de lutte contre Parcoursup, la réforme du bac ou la précarité. Certains jeunes confient une forme de fatigue. Mais une crainte se serait aussi installée, selon Maëva, une militante, la crainte de la répression.
J'ai plein de copains-gobines qui me disent « oui, on est là, oui, on soutient les travailleurs, mais par contre, on ne sait pas ce qui se passe si on se fait gazer, on ne sait pas ce qui se passe, quels sont les premiers réflexes, si on se fait emmener un garde à vue, est-ce que nos parents doivent venir nous chercher ? » Enfin, c'est toujours des questions comme ça qui restent en suspens et en manque de confiance aussi envers les forces de l'ordre.
Isée, doctorante chargée de TD, regrette-t-elle la perte d'influence des syndicats étudiants.
2 mois après le début de la réforme, on avait encore des amphis de 450 étudiants où quand on leur demandait qui connaît la réforme des retraites, il y avait 4 ou 5 mains qui se levaient. Et ça, ce travail d'information-là, c'était jusqu'à présent les organisations étudiantes qui le faisaient.
Enfin, d'autres mettent en cause directement l'évolution du profil des étudiants. Ce doctorant se souvient d'une assemblée générale durant laquelle il a été pris à partie en tant que chargé de TD.
C'était un étudiant qui nous disait « Vous ne produisez pas de valeur, vous n'êtes pas professionnalisant et vous êtes amené à disparaître. » On a l'impression que c'est un peu la révolution conservatrice au sein de nos rangs, quoi. Que ces étudiants qui ont été recrutés avec Parcoursup sont frustrés, en fait, finalement, que tout ce long processus de sélection qui promettait finalement quelque chose d'assez élitiste ne les amène que dans une université publique qui resterait, selon eux, encore trop proche de la recherche fondamentale.
Mais en attendant de réussir à élargir le mouvement, ces étudiants et ces doctorants continuent leur 3e semaine de mobilisation.
Le temps de ce mercredi 5 février, variable en début de journée avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses, surtout dans le nord de l'Hexagone. Mais le soleil devrait s'imposer cet après-midi. Attention, la vigilance orange pour crue est maintenue dans les Ardennes, la Marne et la Meuse. Les températures sont de saison, comprises ce matin entre 0 et 4 degrés, jusqu'à 8 près des côtes.